IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val-d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli Android. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Et si nous parlions d'inclusion? Parce que l'inclusion n'est pas une option mais une nécessité. Aujourd'hui, vendredi 7 novembre 2025, handicap, santé, emploi seront les thèmes de l'économie en direct consacrée à notre spécial MEDEF 95 du mois. Comment concilier performance économique et bien-être au travail? Des solutions concrètes existent et mes invités de ce matin en sont les actrices. Bienvenue dans cette émission à l'économie en direct. Bonjour Jeanne-Berry Josselin, déléguée générale du MEDEF Val-d'Oise.
Bonjour Jacqueline.
Bonjour Elisabeth Asdrubal, directrice générale de ressources carrière et handicap du Val-d'Oise.
Bonjour Jacqueline.
Et ma troisième invitée est Dominique Gillot, femme politique qui a brigué plusieurs mandats, maire, députée, sénatrice et ministre, que nous allons retrouver dans quelques minutes via le téléphone.
Bonjour
Madame la ministre.
Oui, appelez-moi Dominique, appelez-moi Madame Gillot.
Oui, très bien. Très bien, merci, c'est adorable. Donc bienvenue dans cette spéciale MEDEF Val-d'Oise où l'inclusion devient l'affaire de tous. Et merci d'être les invités en direct de l'économie en direct. Une émission disponible à tout moment en podcast sur le portail de la radio idfm98.fr.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Et donc, sans plus tarder, on vous retrouve, Dominique, donc. Bonjour, Madame la Ministre, quand même. Je tiens à donner votre titre. Merci de nous accorder cette interview sur IDFM Radio. Alors, pu voir que vous étiez native du Val-d'Oise, que vous y aviez tracé. Voilà, vous y aviez tracé toute votre carrière professionnelle et politique et vous êtes depuis longtemps une figure incontournable du secteur du handicap pour lequel vous avez œuvré et vous œuvrez encore sans relâche. C'est bien ça?
Ben oui, c'est vrai, je suis née, je suis pas née dans le Val-d'Oise, je suis née à Conflans-Sainte-Honorine, mais oui. j'habite à Iragny depuis que je suis adulte, où j'ai effectivement été enseignante, institutrice, et puis où j'ai eu plusieurs mandats, que m'ont confié les électeurs de ma commune, du département, de ma circonscription. Et c'est vrai que depuis 1995, je suis très attachée à défendre la place des personnes handicapées dans notre société et à faire reconnaître leur capacité, leurs aptitudes à être des citoyens avec et parmi les autres.
C'est ça. Donc vous avez été membre du CNCPH, le Conseil national...
Je l'ai présidé pendant 5 ans, oui.
Donc c'est le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Et aujourd'hui, vous présidez la fondation OVE, donc une fondation reconnue d'utilité publique et qui agit au service des enfants et des adultes en situation de handicap ou d'exclusion en France et leurs aidants. C'est bien ça?
Tout à fait. Alors le CNCPH est un organe institutionnel qui réunit des représentants des différentes composantes du secteur handicap.
Oui.
Voilà, donc j'ai présidé cette organisation pendant 5 ans et je continue de travailler avec son président qui m'a succédé et avec qui j'ai d'excellentes relations et on travaille vraiment étroitement pour la promotion des personnes avec handicap.
Et j'ai pu voir qu'il y avait un guide qui était mis à disposition. Si vous voulez, on y reviendra tout à l'heure sur certaines questions essentielles. Oui. Je vous poserai quelques questions moi-même sur ce guide. Mmh. Donc, toujours en préparant ce dossier, moi j'ai pu découvrir qu'en fait, il y avait 12 millions de personnes en situation de handicap moteur ou invisible, telles que les difficultés sensorielles, psychiques, mentales et ou cognitives. Et on compte également 8 millions d'aidants, puisque votre fondation OVE s'intéresse aux aidants.
Oui, aussi, oui.
Et c'est dire que cette question concerne tout le monde. Pourtant, beaucoup reste à faire pour permettre à ces personnes d'accéder à l'ensemble de leurs droits et des services et de vivre la vie qu'elles souhaitent.
Tout à fait. Alors, il y a deux sujets dans ce que vous venez de dire qui sont au cœur de ma réflexion et de mes travaux de partenariat. À la fois, la place des personnes handicapées dans notre société, hein, comme je vous disais, pour moi, c'est vraiment un engagement très fort qui est maintenant assez bien reconnu de considérer les personnes avec handicap comme des citoyens à part entière qui souhaitent et qui peuvent contribuer à l'évolution de la société et qui justifie cette ambition de construire une société inclusive qui apparaît aujourd'hui comme une obligation, comme quelque chose d'incontournable. Mais ça n'a pas toujours été le cas, hein. Il y a quand même eu de très nombreuses années où les personnes avec handicap, les personnes handicapées étaient prises en charge, mises à l'écart pour les protéger, enfin c'était l'idée, hein, pour les protéger de la société qui aurait été
agressive
à leur égard.
Oui,
bon. Alors l'agressivité de la société, elle reste néanmoins, mais la société a compris qu'elle pouvait bénéficier aujourd'hui de l'apport de ces personnes avec handicap et particulièrement des jeunes adultes qui ont été élevés en bénéficiant de l'éducation, de l'enseignement, qui sont parfois diplômés de très haut niveau et qui souhaitent vraiment être contributeurs de la vie sociale et de la vie professionnelle. Donc il y a cette volonté-là. Et puis de l'autre côté, il y a effectivement les aidants à côté d'eux, les aidants qui peuvent être des professionnels, bien évidemment, mais aussi des aidants proches, la famille ou des amis, et qui aujourd'hui revendiquent à juste titre une reconnaissance de leur engagement aux côtés des personnes qui ont besoin d'elles, notamment pour continuer à avoir une vie sociale et une vie professionnelle, parce que s'engager dans une démarche d'aidant, c'est un puits sans fond et c'est quelquefois un parcours extrêmement douloureux qui peut conduire à l'exclusion des aidants
de
leur vie professionnelle.
De l'ensemble des handicapés aidants, oui, c'est clair.
Voilà. Et j'avais fait un rapport justement à la demande de Madame Buzyn quand elle a été nommée ministre en 2017, qui faisait justement état de cette situation et qui faisait un certain nombre de propositions et que j'ai eu la joie, la fierté de voir mise en œuvre progressivement. Donc la situation des aidants évolue progressivement, mais pas suffisamment.
Pas aussi vite que vous voudriez.
Voilà. Et pour qu'elle évolue bien, il faut vraiment qu'il y ait une bonne considération, une bonne coopération des entreprises qui doivent comprendre que faciliter la vie des aidants, c'est aussi faciliter la vie de professionnels aguerris qui développent des compétences qui sont utiles à l'entreprise.
Très bien. Alors, j'ai découvert aussi la Convention relative aux droits des personnes handicapées, hein, la CDPH, qui engage justement les États à lutter contre les stéréotypes. Et où en est la France aujourd'hui et quels progrès restent à accomplir ?
Oh, écoutez, il y a toujours des progrès à accomplir. Et je pense que la Convention des droits internationaux, hein, la CIDPH, c'était quelque chose d'intéressant et de c'est un guide, c'est un objectif. Mais tous les pays qui ont signé cette convention ne sont pas au même niveau d'engagement et ne portent pas leurs efforts aux mêmes endroits. La France a porté ses efforts, notamment depuis maintenant 2005, hein, depuis 20 ans, a porté ses efforts sur l'accueil des personnes handicapées dans la société, dans le milieu ordinaire, en facilitant leur accès aux droits de tout à chacun. Alors c'est vrai qu'il y a des contraintes, il y a des il y a des sanctions pour les secteurs d'activité qui ne respectent pas cette obligation, mais il y a un certain nombre de personnes handicapées, d'associations de personnes handicapées qui considèrent que ces contraintes ne sont pas suffisamment fortes.
Oui, oui.
Et que les voilà, que la contrainte, la loi devrait être appliquée de manière très très rigoureuse. Oui. Alors c'est sûr que c'est un moteur, mais il y a aussi d'autres personnes dont je fais partie qui pensent que l'adaptation de la société, l'évolution des mentalités, l'encouragement, l'incitation.
Oui, laisser le temps au temps.
En plus, voilà. Non, mais avec des bornes pour qu'on puisse arriver à l'objectif atteint, mais sans coercition.
C'est
parce
ça.
Que sinon, on risque d'avoir, et notamment quand dans la mission qui nous concerne, dans la relation avec les employeurs, faut plutôt montrer aux employeurs l'intérêt qu'ils ont à recruter des personnes avec handicap, surtout dans une période où l'emploi est difficile à pourvoir, parce que ce sont des personnes qui ont des aptitudes et des compétences, qui peuvent acquérir des compétences.
Bien sûr,
bien sûr. Ça nécessite de la conviction, de l'accompagnement et du soutien. Et c'est justement la vocation de France Travail qui a été créée en 2024 par la loi Plein Emploi, qui intègre complètement dans ses objectifs, dans ses missions, le plein emploi des personnes avec handicap.
Parfait, merci pour cette précision. Alors donc, on parlait du CNCPH, qui donc a sorti un guide pour mieux parler du handicap. Il souligne que les mots façonnent les mentalités.
Absolument.
Et il est un petit peu, il me semble qu'il est un petit peu aussi à destination des médias et des entreprises pour éviter les pièges du langage.
Tout à fait, c'est vraiment fait pour ça. Et ça a été, c'était un travail de collectif, de grande réflexion, qui donne des clés aux personnes qui sont quelquefois en difficulté. On a eu là dernièrement un couac énorme du ministre du Travail qui a dit on n'est pas sourd ni aveugle. Enfin bon, alors ça c'est choquant pour les personnes sourdes et aveugles, pour les personnes handicapées, qu'on puisse utiliser leur situation comme un élément de langage péjoratif.
Mais
ça remonte, c'est traditionnel. Je pense que dans certains milieux qui sont moins aguerris à travailler, à côtoyer des personnes handicapées, c'est très courant de dire écoute, je suis pas sourd, j'ai entendu. Je suis pas autiste, j'ai bien compris.
Il n'y a aucune péjoratif.
C'est vécu comme une agression pour les personnes handicapées, et c'est bien qu'on soit attentif à son vocabulaire. Moi-même, maintenant, c'est une habitude, vraiment, je n'utilise pas de mots qui peuvent être blessants. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu que dans ma façon de parler, je ne dis pas personne en situation de handicap, je dis personne avec handicap.
Oui.
Pourquoi ? Parce que l'objectif de l'ambition inclusive de notre engagement, c'est de faire en sorte que toutes les situations de handicap puissent être compensées. Par un accompagnement, par une adaptation de l'environnement, du poste de travail. Donc, à un moment donné, la personne ne doit plus être en situation de handicap. Néanmoins, elle a toujours son handicap. Une personne sourde continuera d'être sourde, même si on utilise des dispositifs qui lui permettent de compenser, de dépasser son handicap. Une personne à mobilité réduite, une personne qui n'a pas l'usage de ses jambes, elle pourra surmonter tout ça, surmonter ses difficultés de mobilité, mais néanmoins, elle ne retrouvera pas l'usage de ses jambes. Vous voyez ? Donc moi, je plaide pour l'idée qu'on considère la personne pour ce qu'elle est, et pas pour son handicap. Et
c'est ça,
voilà, c'est un petit débat que j'ai avec certains représentants du secteur du handicap. Je considère que le terme en situation de handicap est contradictoire avec l'ambition inclusive que nous défendons.
Très bien. Alors, moi, j'ai relevé quelques questions dans ce guide pour mieux parler du handicap. Je les ai pas toutes listées, mais laquelle vous semble la plus urgente à appliquer dans le monde professionnel, notamment parler de handicap toute l'année? Est-ce que ça vous semble...
Alors, tout à fait. Ouais. Il faut apprivoiser le handicap, il faut apprendre à le côtoyer, il faut apprendre à travailler avec. Et ça n'est pas inné, ça n'est pas donné à tout le monde. C'est quelquefois difficile d'approcher une personne avec handicap, de parler avec elle de sa situation, parce qu'on a peur de la vexer, on ne sait pas comment aborder le sujet. D'autres personnes, des personnes peuvent être gênées. Bon, il y a beaucoup de ressentis et de comportements sociaux, affectifs qui rentrent en jeu. Donc, ce qu'il faut, c'est que ça devienne une pratique courante et pas forcément institutionnelle, mais les obligations institutionnelles, là, elles y contribuent. Mmh. Et les entreprises qui doivent aujourd'hui faire tous les ans la déclaration de leur du nombre de salariés avec handicap qu'ils ont dans leurs effectifs, eh bien, ça habitue les directeurs de ressources humaines avec l'aide de France Travail, avec l'aide de la GFIP, à travailler, à véhiculer ce concept là dans leur bilan, et je l'espère à constater que recruter au sein de son équipe une ou des personnes handicapées, c'est favorable à la cohésion de l'équipe, c'est favorable à la productivité, c'est favorable à l'image de l'entreprise sur l'extérieur, parce que de plus en plus maintenant de consommateurs ou de partenaires sont attentifs à la responsabilité sociétale des entreprises et à la manière dont elles traitent les personnes avec handicap.
C'est ça. Et puis pour le public, hein, l'ensemble des citoyens, ne pas se souvenir de ce sujet uniquement le 3 décembre, la journée internationale dédiée, ou alors pendant les Jeux paralympiques.
Bien sûr, bien sûr. Mais justement, les Jeux paralympiques ont montré de manière absolument formidable les aptitudes des personnes, des athlètes avec handicap. Moi, je dis à plusieurs reprises, j'ai témoigné en disant, mais ces athlètes, ces performeurs ne sont pas en situation de handicap. Ils dépassent leur handicap.
Complètement, oui.
Et ils deviennent des performeurs, ils deviennent des athlètes, des champions, au même titre que les personnes valides et quelquefois même de manière beaucoup plus forte. Donc, c'est important que ces Jeux paralympiques aient été relayés comme ils ont été relayés dans les médias, que les places des différentes session a été achetée, que les gens ont vu. Du coup, les gens ont compris qu'on peut vivre avec un handicap et être heureux dans la vie, avoir des objectifs de dépassement, des objectifs collectifs, et puis qu'on peut côtoyer des personnes handicapées sans être gêné, sans être...
Dépasser leur handicap, ne plus voir qu'ils sont handicapés, oui.
Voilà, ne pas avoir de recul.
Et c'est vrai, donc ces Jeux paralympiques ont vraiment marqué un tournant dans la visibilité du handicap.
Tout à fait.
Est-ce que vous pensez que ça pourrait permettre de capitaliser, pour ancrer l'inclusion dans la culture d'entreprise?
J'en suis convaincue. Il y a forcément un après les Jeux Olympiques. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui trouvent que ça va pas assez vite, que l'enthousiasme est retombé, mais néanmoins on constate que les grandes fédérations sportives se sont ouvertes aux personnes handicapées, que maintenant il y a une mixité qui peut se développer dans les clubs sportifs. On voit bien que dans les stades, dans les lieux de rencontres sportives, il y a de plus en plus la place qui est organisée pour que les spectateurs avec handicap soient spectateurs avec et parmi les autres. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont un héritage de ces Jeux Olympiques, et la colère de ceux qui trouvent que ça ne va pas assez vite, elle est aussi stimulante, parce que ça permet de se dire, on ne va pas assez vite, on peut faire mieux, voilà.
C'est ça.
Je pense franchement que ça a été une grand rendez-vous de la société avec son ambition inclusive.
Oui, complètement. Alors donc, parmi les questions, il y en a une autre que j'ai, dans le guide, j'ai relevé le fait qu'il fallait privilégier l'information à l'émotion. Vous-même, je crois que vous avez parlé de handi-washing. Donc, pour ne pas utiliser cette thématique comme un marronnier journalistique ou un titre accrocheur.
Tout à fait. Il y a quand même des personnes qui font preuve d'opportunité.
Forcément,
mais ça,
on n'évitera jamais.
Si, si c'est au bénéfice, par exemple, dans une entreprise, si une entreprise va développer un programme de recrutement des personnes handicapées, d'adaptation de ses postes et tout, pour avoir une meilleure image en termes de responsabilité sociétale de l'entreprise, moi, ça ne me dérange pas si c'est au bénéfice des personnes handicapées.
Bien sûr, bien sûr.
Vous voyez,
bien sûr.
Ça peut être des accords gagnant-gagnant. Hein. L'entreprise, elle y gagne des salariés attachés à leur emploi, attachés à leur entreprise, productifs, et le salarié avec handicap, il y gagne un emploi, qui lui permet d'avoir un salaire, d'avoir la dignité dans sa famille. Enfin, c'est quand même, c'est gagnant-gagnant.
Complètement. Madame la ministre,
excusez-moi, je pense que ce qu'il faut traquer, c'est, alors là, je suis allée sur l'emploi, puisque
c'est le thème de l'émission,
On parlera peut-être des médias si vous le souhaitez après, mais dans l'emploi, je pense que ce qu'il faut pas aussi, c'est que des entreprises recrutent des personnes avec handicap en bénéficiant de l'accompagnement de l'AGFIP, et puis ensuite, laisse cette personne là où elle est, ne la considère plus dans son organigramme ou dans son organisation des ressources humaines. Oui. Une personne handicapée a le droit, la possibilité, la capacité d'évoluer aussi dans sa carrière. C'est pas parce qu'elle a un emploi un jour que cet emploi va toujours être le même. Elle a droit à un déroulement de carrière comme n'importe quel autre travailleur.
Bien sûr, bien sûr. Oui, il faut éviter l'hypocrisie qui pourrait s'installer.
Voilà. Alors là, parce que là, ça serait pas respectueux des aptitudes et de l'engagement sociétal au regard des personnes avec handicap.
Très bien. Alors une dernière question, Madame la Ministre, vous avez porté des réformes majeures, donc on l'a compris, pour l'inclusion des personnes avec handicap, je reprends votre formule, et le MEDEF du Val d'Oise joue un rôle clé dans leur mise en œuvre sur le terrain. Comment percevez-vous cette collaboration entre les pouvoirs publics, les entreprises et les acteurs comme le MEDEF pour faire avancer concrètement l'inclusion?
Écoutez, moi je trouve que l'organisation patronale, elle a tout son rôle à jouer et elle est partie prenante. Moi j'ai participé à l'organisation et à la conclusion de 4 conférences nationales du handicap maintenant. À chaque fois, il y a un représentant des employeurs qui est là, que ce soit le MEDEF ou un autre, dans les différents groupes, ou un autre syndicat employeur. Et c'est important que ces personnes comprennent bien la démarche, comprennent les outils qui peuvent être mis à leur disposition, dont ils peuvent disposer pour atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire 6% d'emplois de personnes handicapées dans leurs effectifs, et qu'ils puissent après diffuser cette bonne information à leurs adhérents avec une émulation collective. Parce que une entreprise qui fait l'expérience de recruter une personne avec handicap et qui en est satisfaite, qui constate dans ses bilans que cette embauche n'a pas été négative, mais bien au contraire, qu'elle a pu apporter des progrès dans l'esprit collectif de l'emploi, dans la productivité, dans le rapport avec le client, c'est gagnant-gagnant. Il est l'ambassadeur de cette ambition inclusive que nous projetons.
Écoutez, je crois que on sent que vous êtes passionné, très investi dans cette action, et donc bravo à vous pour défendre.
Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très enrichissant et que ça donne une vision de la société et de son engagement personnel très concret, très intéressant. Moi, depuis que je fréquente les personnes handicapées, mon jugement, mon appréciation a beaucoup évolué et je suis très heureuse quand je peux être l'avocate de leur dignité et du respect que nous leur devons pour qu'elles soient acteurs de leur propre vie.
Eh bien, écoutez, ne changez rien. C'est très bien. Je pense que Jeanne, Boris, Jocelyn et Elisabeth Asdrubal vous saluent, bien sûr.
Ben moi aussi, bien sûr.
Et merci infiniment.
Je t'écouterai avec intérêt ce qu'elles vont dire.
Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, rester avec nous ou rester en ligne. C'est possible.
Ben oui, avec plaisir.
Donc, écoutez, très bien. On continue l'émission. Merci, Dominique. Donc, on vous laisse profiter de quelques instants de musique avec la lettre de Ronan Luce.
J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, aspergée de parfum, rouge à lèvres carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Je veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses i, des courbes manuscrites comme dans les API, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie et en guise de paraphe, ta petite plante sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Écrit que dimanche, elle sera sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurai pas le tact d'assumer mes ébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, je ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Grâce au cachet de la poste d'une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste au matin du dimanche. L'endroit était désert, il faudra être patient, des blondes suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, je veux battre Newton car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle surplombait la Manche quand je l'ai reconnue. J'ai saisi par la manche ma petite ingénue qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. Moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut.
IDFM Radio, le média valdoisien. Nous voilà de retour et je suis ravie de vous retrouver pour la suite de cette émission spéciale MEDEF du Val d'Oise en compagnie de Jeanne Bury-Josselin, déléguée générale du MEDEF Val d'Oise, Elisabeth Asdrubal, directrice générale de Ressources, Carrières et Handicap 95, et Dominique Gillot, ancienne ministre présidente de la Fondation OVE. Alors Jeanne, en tant que déléguée générale du MEDEF du Val d'Oise, vous incarnez le lien entre la performance économique et la responsabilité sociale. On sait que le MEDEF est très impliqué en faveur de l'emploi. Il poursuit son engagement en faveur de l'inclusion avec plusieurs thématiques, dont celle de favoriser les rencontres entre entreprises et demandeurs d'emploi avec handicap. Je reprends bien la formule de Madame Gillot. Comment le MEDEF accompagne-t-il les entreprises du Val d'Oise pour faire du handicap un levier de compétitivité et d'innovation?
Alors, il y a eu plusieurs étapes. Pendant longtemps, on a eu un partenariat avec RCH 95 qui nous a permis effectivement de pouvoir diriger les entreprises, de les informer concrètement sur les dispositifs, sur les enjeux aussi pour eux d'accueillir des personnes avec handicap dans leurs équipes. Il y a eu une petite pause, mais je crois qu'on va reprendre grâce notamment à Elisabeth qui est à mes côtés. Et Concrètement, on essaye d'intégrer les personnes avec handicap aux actions qu'on mène. Alors, c'est pas toujours évident parce que, étant donné qu'on dépend de conventions très précises avec le département sur les bénéficiaires du RSA, parfois il y a des nomenclatures administratives qui font que les publics sont séparés selon la raison pour laquelle ils dépendent du département. Mais en tout cas, nous, on essaye de le faire. Et surtout, notre première action, et c'est ce qui va se passer le 22 novembre à l'occasion du déjeuner débat, et c'est aussi l'objet de cette émission aujourd'hui, c'est d'informer les entreprises et d'essayer que, à la fois le message qu'a pu transmettre Madame la Ministre, que je remercie vivement de bien avoir voulu participer à cette émission, et à la fois avec ce que nous dira Elisabeth tout à l'heure, de leur donner des clés vraiment concrètes sur comment ça se passe, quels sont les intérêts, parce que souvent, ils peuvent penser en termes de pénibilité, ils ne perçoivent pas quels sont les intérêts pour leur entreprise au quotidien et pour les équipes aussi en général.
Et vous, est-ce qu'il y a des freins qui pourraient être des freins persistants identifiés par les entreprises, notamment les TPE-PME, pour intégrer des personnes avec handicap?
Le frein principal, et Dominique Gillot l'a un peu dit tout à l'heure, en fait, c'est toujours l'inconnu. Le problème, c'est que les entreprises ont peur de l'inconnu et que quand elles ne savent pas comment ça se passe, quand elles ne savent pas que ça se passe bien, elles peuvent avoir quelques scrupules à s'engager dans ces démarches. Il y a un autre frein qui est l'inconnu dans leurs propres équipes. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas qu'elles ont des personnes qui peuvent relever de la MDPH parce que ce sont des pathologies non assumées, souvent par les salariés qui ont peur du retour de leur chef d'entreprise, jamais ils en parlaient. Enfin, voilà. Après, une fois que c'est mis en place, c'est différent. Il y a un accompagnement très solide de l'État. Il y a beaucoup effectivement d'acteurs qui aident les entreprises pour leur dire comment ça se passe, mais il faut leur expliquer et faire de la pédagogie, ne pas avoir peur aussi de leurs propres préjugés, parce que c'est en échangeant qu'on peut les lever.
Bien sûr. Est-ce que la diffusion du guide du CNCPH pour mieux parler du handicap ne serait pas une solution aussi pour que les entreprises, les chefs d'entreprise puissent s'en imprégner?
Bien sûr, et on le fera avec plaisir. Mais oui, toute information claire est un levier d'action et d'engagement pour les chefs d'entreprise.
Et alors, est-ce que le MEDEF du Val-d'Oise a développé des outils spécifiques pour sensibiliser précisément les dirigeants et les managers, comme vous le disiez, souvent réticents par méconnaissance?
Pas encore. On a ce premier déjeuner débat, donc le 20 novembre, qui est un jour un peu spécial, puisque, alors déjà, ce sera la semaine du handicap, mais c'est aussi le jour du Duodé, qui est une initiative nationale visant à encourager les chefs d'entreprise ou les cadres en général à accueillir une personne avec handicap. Moi aussi, je fais attention maintenant. Pour une journée.
Vous nous avez converti, Dominique.
J'entends très bien.
Mais globalement, nous, notre message, et le Duodé, c'est très bien. Nous, le message qu'on veut passer à l'occasion de ce déjeuner débat, c'est l'intégration des personnes avec handicap, c'est tous les jours et toute l'année, pas uniquement pour une journée, et comment ça se passe, quels sont les enjeux globaux, je pense que ce sera le message de Madame la Ministre, et concrètement, quels sont les outils, et ça, ce sera le message de RCH. On a le projet de développer un partenariat, je pense qu'on peut l'annoncer sans lever d'informations secrètes, plus construit sur l'année, et notamment de mettre en place dans les actions qu'on mène avec les DRH, nous, de formation, des formations très spécifiques sur l'accueil de personnes en situation de handicap ou la reconnaissance de handicap pour les équipes déjà présentes.
Très bien, merci Jeanne Berry-Josselin. Alors, une autre question, j'espère que ce n'est pas une question piège. Est-ce que vous avez un exemple d'entreprise locale qui a su transformer l'inclusion en atout stratégique?
Alors, il se trouve qu'il y en a deux qu'on partage avec Madame Azoubel et qui sont des adhérents du MEDEF. Il y a l'entreprise Volkswagen et ASVO, mais peut-être que je laisserai Elisabeth
nous en parler tout à l'heure.
Directement tout à l'heure, parce qu'elle travaille avec eux au quotidien. Il y en a beaucoup d'autres. Ça dépend aussi de quel type de handicap. Voilà, il y a multiples structures. L'objet de notre déjeuner débat et de cette émission, je le précise parce que c'est important, c'est de pouvoir intégrer des personnes handicapées, parmi les valides dans l'emploi. Et non des structures qui n'accueilleraient que des personnes handicapées, qui existent également, et c'est très bien, mais qui sont moins l'objet des questions des chefs d'entreprise.
Qui vont être posées ce jour-là, oui. Donc, votre actualité, c'est ce déjeuner, donc le 20 novembre. Vous nous redites où il se trouve?
Bien sûr, ce sera au restaurant Le Nid à l'Isle-Adam, à 12h. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez nous écrire. Vous trouvez toutes les informations sur la page LinkedIn du MEDEF Val d'Oise, sur son autre site internet.
Merci Jeanne, Jeanne Bory-Josselin. Madame la ministre, vous voulez réagir au propos de Jeanne?
Ben, je suis très contente de l'entendre expliquer qu'il va y avoir un programme de sensibilisation et de formation des directeurs de ressources humaines tous les jours et toute l'année, parce que c'est ça la bonne, enfin je me semble que c'est ça la bonne pratique. Faut pas contraindre les entreprises, il faut les aider à comprendre leur intérêt et à s'inscrire dans cette démarche nationale.
Très bien, merci beaucoup. Elisabeth,
merci Jeanne.
Merci Dominique.
Elisabeth Azribal, vous voulez réagir aussi au propos de Jeanne?
Bah, comme l'a dit Jeanne, on s'engage dans un renouvellement du partenariat avec le MEDEF 95 au service des employeurs, des chefs d'entreprise. Nous, la particularité de notre structure, c'est qu'on a été créé à l'initiative d'un groupement d'employeurs il y a 30 ans. On a donc développé notre expertise handicap sur cette base-là, accompagnement des employeurs et accompagnement des personnes avec handicap. Moi aussi, je m'adapte.
Oui, Dominique.
Pardon, je vous interromps. Est-ce que vous adhérez à l'idée?
Bien sûr.
Bon, c'est oui, pas simplement pour me faire plaisir, parce que je pense que c'est quand même chargé de sens de considérer la personne avec ce handicap et avec ses aptitudes, plutôt que de considérer qu'elle sera toujours en situation de handicap. À un moment donné, une personne avec handicap, elle peut se conduire et réagir comme n'importe quel travailleur du collectif de travail, sans que son handicap soit un facteur de frein. Au contraire, vous voyez, c'est ça le. Il faut vraiment qu'on arrive à convaincre les employeurs et les collègues aussi, parce que quelquefois l'arrivée d'une personne handicapée dans une équipe, dans un collectif de travail, ça peut entraîner des réactions négatives, de peur, de frustration, de doute. Donc il faut aller au-delà de tout ça et considérer que la personne, elle a des aptitudes au travail, point.
Très bien. C'est noté, c'est bien noté. Alors, je vous propose on va s'arrêter encore quelques minutes pour écouter Michel Berger chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Mais restez à l'écoute sur IDFM Radio. On revient tout de suite.
Celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles, en pensant qu'au bout du monde y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent. Ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Qui a volé leur histoire? Qui a volé leur mémoire? Qui a piétiné leur vie comme on marche sur un miroir? Ce celui-là voudra des bombes, celui-là comptera les jours en alignant des bâtons comme les barreaux d'une prison. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal, ça fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal, ça fait mal.
IDFM, 98FM.
C'est l'économie en direct et nous revoilà dans cette émission spéciale MEDEF du Val d'Oise consacrée aujourd'hui au handicap et aux entreprises prêtes à accueillir des personnes avec handicap. Merci Jeanne, je vous ai pas remercié pour cet éclairage concret sur l'engagement du MEDEF du Val d'Oise pour faire que le handicap ne soit plus un frein à l'embauche. Et puis on voit bien que votre travail montre que l'inclusion n'est pas un coût mais un investissement pour
exactement
l'avenir des entreprises.
C'est l'objectif. Ouais.
Et donc cette émission accueille également Elisabeth Asdrubal. Donc Elisabeth, je rappelle que vous êtes la directrice générale de ressources, carrières et handicap du Val d'Oise, donc RCH. Elisabeth, quelques mots pour vous présenter.
Oui, effectivement, je suis directrice générale de ressources, carrières et handicap 95. La particularité de cette structure, je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a été créé il y a 30 ans, en fait nos 30 ans cette année, simultanément avec les 20 ans de la loi du 11 février 2005, créée à l'initiative d'un groupement d'employeurs pour donc accompagner à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc on a développé cette double expertise de l'accompagnement des employeurs, entreprises privées, employeurs publics, et de l'accompagnement des personnes avec handicap, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou qu'ils soient salariés avec des problématiques de santé qui peuvent à un moment donné menacer l'emploi.
C'est ça. Et donc nous-mêmes, nous nous étions rencontrés à deux reprises l'année dernière, enfin en 2024, novembre 2024, sur un événement à Cergy organisé par Maison Solidarité Femmes, hein, qui emploie des personnes avec handicap. Et puis on s'était retrouvés à la Journée de la Femme, ce qui n'était pas désagréable. Voilà. Donc vous, en tant que vous êtes donc dans cette structure RCH depuis longtemps?
Alors moi, je fête ma 15e année au sein de cette structure. Moi, j'ai un parcours, alors pas si atypique que ça. Hein. J'ai travaillé en entreprise. Je suis spécialiste du management des ressources humaines et de la communication interne. Et les sujets de développement RH, voilà, sont des sujets qui me portent depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Je l'ai pas dit tout à l'heure, la particularité de RCH 95, c'est aussi que on porte le dispositif Cap Emploi dans le Val d'Oise, et que donc les sujets de recrutement, d'insertion, d'intégration des personnes en situation de handicap dans l'entreprise, mais aussi et surtout les sujets de maintien dans l'emploi, c'est notre cœur de métier, c'est notre domaine d'expertise.
C'est ça. Vous représentez une approche globale, hein, de l'inclusion qui allie la gestion des talents et l'accessibilité.
Exactement. Et c'est la spécificité en fait de Cap Emploi en tant qu'organisme de placement spécialisé, c'est que c'est un des rares, voire le seul opérateur qui accompagne l'actif avec handicap tout au long de sa vie, qu'il soit en recherche d'emploi, qu'il soit employé au sein d'une entreprise ou d'une structure, et on accompagne aussi sur les fins de carrière.
Alors aujourd'hui, vous travaillez main dans la main, on l'a compris, avec le MEDEF du Val d'Oise, pour faire que de l'inclusion une réalité sur le terrain. Comment cette collaboration va se traduire au quotidien ?
Jeanne l'a évoqué tout à l'heure, hein, le temps fort, le prochain temps fort, c'est notre déjeuner débat du 20 novembre. Voilà, la trajectoire, c'est renforcer l'accompagnement des employeurs, des professionnels des ressources humaines, pour que le sujet de l'inclusion, pour que la construction d'une politique handicap soit pleinement intégrée à la gestion des ressources humaines dans l'entreprise. Et c'est aussi mettre l'accent sur le fait que ce sont au quotidien souvent des petites actions, en fait, des petites actions autour de la santé au travail, des petites actions autour de comment un professionnel des ressources humaines gère les arrêts maladie, par exemple, d'une personne qui n'est pas forcément reconnue travailleur handicapé, mais qui a une problématique de santé, de comment on sécurise le parcours, quels acteurs, quels outils on peut mobiliser, et comment on fait de l'entreprise un lieu réellement inclusif. On l'a dit tout à l'heure, c'est un levier de performance économique et sociale pour l'entreprise, et c'est là-dessus qu'il faut communiquer, c'est ce qu'il faut réussir à transmettre aux chefs d'entreprise pour voilà, permettre d'avancer sur la perception du handicap dans la société, la perception du handicap dans l'entreprise, à une époque où on demande aux chefs d'entreprise, il faut en avoir conscience, beaucoup d'efforts.
C'est ça, oui, oui. Quand je vous écoute, je me dis que j'imagine que vous essayez de créer un peu, on va dire, des standards, hein, pour s'adapter à chaque entreprise. Et en même temps, chaque entreprise est unique et a ses propres spécificités. Donc vous arrivez, vous avez cette flexibilité pour
oui,
vous adapter.
Tout à fait, c'est la base de l'accompagnement. La base de l'accompagnement, c'est d'abord un diagnostic de ce qu'est la réalité de l'entreprise, de ce qu'est la réalité de ses salariés qui ont des problématiques de santé. On a évoqué tout à l'heure le fait que certaines personnes ne s'identifient pas en tant que personnes reconnues en situation de handicap dans l'entreprise, que certains salariés qui ont des problématiques de santé n'en parlent pas forcément à leur service RH. Donc, c'est aussi comment comment on est attentif aux signaux faibles, et comment on crée au sein de l'entreprise un climat qui permette de libérer la parole sur ces sujets-là, parce que libérer la parole, ça permet aux chefs d'entreprise, aux services RH d'agir, de mobiliser les acteurs de terrain qui sont là pour les accompagner, et d'avancer, de monter la marche suivante.
Bien sûr. Jeanne, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, simplement pour revenir sur ton introduction, Jacqueline, non pas pour contester, mais juste pour dire que oui, le MEDEF Val d'Oise, en partenariat, on va essayer de diffuser encore plus le message de RCH95, mais sur ce qui est de agir sur le terrain et concrètement auprès des entreprises, c'est déjà fait depuis très longtemps.
Nous,
on est juste un nouveau relais si des entreprises éventuellement n'avaient pas l'information, ou pour des entreprises qui participent à nos actions sans forcément se poser la question du sujet, mais évidemment l'action est déjà menée en toute proximité des entreprises au quotidien.
Complètement. Mais c'est un petit peu la réflexion que je me suis faite en préparant l'émission. Mais je trouve que je suis vraiment contente qu'on fasse cette émission, parce que au fond, il y a plein de choses que fait le MEDEF dont on n'est pas au courant. Donc voilà,
c'est pour ça qu'on est là.
Ah ouais, non mais c'est vrai. Je trouve que c'est bien qu'on puisse développer ce sujet. Donc vous, votre structure, on a compris, joue un rôle clé pour aider les entreprises à concilier performance et diversité. Quels sont les besoins les plus fréquents exprimés par les dirigeants et comment y répondez-vous concrètement ?
Alors souvent, quand on va à la rencontre des entreprises, ce dont on se rend compte, c'est qu'il manque d'informations sur le sujet, une banque d'informations sur le sujet. Donc voilà, les initiatives, les politiques d'accompagnement menées par les organisations telles que le MEDEF, elles sont importantes. Ça permet de relayer de l'information, ça permet de faciliter la mise en relation avec les opérateurs de terrain. Ce dont on se rend compte aussi, bon, ça n'est plus pour mes équipes et moi-même un point d'étonnement, mais ça l'est parfois pour les chefs d'entreprise quand on aborde ce sujet-là, c'est que dans toutes les entreprises, il y a des salariés qui rencontrent des problématiques de santé, qui ne sont pas forcément identifiés, qui pourraient avoir besoin de certains aménagements qui permettraient de renforcer, voire de développer leur productivité, et qui n'en bénéficient pas forcément. Donc on commence souvent dans nos approches de l'accompagnement par l'interne, en fait. L'interne, identifier les signaux faibles. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en arrêt maladie depuis longtemps, par exemple? C'est le cas dans toutes les entreprises. Comment les services RH approchent ce sujet et ces problématiques, et comment on peut aider parfois en intervenant en tant que tiers de confiance à permettre de sécuriser la relation de travail et de travailler au maintien dans l'emploi. L'enjeu, c'est aussi que l'entreprise préserve ses compétences. Parce que souvent, ce sont des personnes...
C'est ce que disait Mme Gillot. Exactement. C'est pas parce qu'il y a un accident de vie que...
Exactement. Il y a un vrai enjeu de préservation des compétences dans l'entreprise. Il y a un enjeu d'attractivité aussi. Donc, aborder ces sujets-là, ça permet aussi d'attirer les talents. Et puis, ça permet de rassurer en interne. Je parlais tout à l'heure d'un climat favorable à ce qu'on échange ouvertement sur ce type de sujet en entreprise. Une entreprise au sein de laquelle on parle du sujet, et Jeanne l'a dit tout à l'heure, on ne parle pas uniquement du sujet pendant la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap ou pendant le DUOD, où on en parle toute l'année. C'est une entreprise où forcément il va être plus facile de mener des initiatives qui sont pas forcément exceptionnelles, en fait, ce sont des actions du quotidien, mais qui permettent réellement d'avancer et d'être une vraie valeur ajoutée sur ces sujets-là. Et puis je rebondis aussi, parce qu'on parle beaucoup des entreprises, des employeurs, nous ce qu'on considère, c'est que j'ai l'habitude de le dire, sans employeur il n'y a pas d'opportunité d'emploi. Oui. Sans opportunité d'emploi, la citoyenneté des personnes avec handicap, elle est forcément dégradée. Donc, c'est un levier fort pour nous, l'accompagnement des employeurs, la sensibilisation au handicap, la sensibilisation à des notions comme l'aménagement raisonnable, aussi, qui est une obligation des employeurs. Mais l'autre levier fort, c'est aussi l'accompagnement des personnes, l'accompagnement des demandeurs d'emploi, qui ne doivent pas réduire leur situation à leur pathologie, à leur handicap. Donc on met beaucoup l'accent sur ces éléments-là, sur les compétences qu'elles ont à offrir, sur le fait qu'elles ont accès à des parcours d'évolution professionnelle comme tout citoyen, l'accompagnement des salariés aussi. L'idée, c'est de que les salariés aient conscience du fait que on peut tous être confrontés à un moment donné à une problématique de santé, à un accident de la vie, à un accident de la route, peu importe, qui limite nos capacités. Et en fait, nous sommes là, opérateurs spécialisés, pour travailler sur la compensation du handicap. C'est ce que disait Madame la Ministre aussi tout à l'heure, pour faire en sorte que l'impact du handicap sur la carrière professionnelle, sur la contribution à la société, sur la participation à la société, soit minoré le plus possible.
C'est là où on comprend que votre structure, elle intervient vraiment pour prévenir les risques de désinsertion professionnelle liés à la santé.
Tout à fait. On a une équipe chargée du maintien dans l'emploi qui travaille de concert donc avec les employeurs, les salariés, avec les services de prévention et de santé au travail, avec les cellules des insertions professionnelles de l'assurance maladie, mais aussi des services de santé, justement pour prévenir cette désinsertion professionnelle. C'est pour ça que je parle beaucoup aussi des personnes qui ne sont pas forcément reconnues travailleurs handicapés, mais qui peuvent à un moment donné se retrouver éloigné de l'emploi parce qu'on arrête maladie après une longue maladie. Travailler, préparer le retour, ça se fait aussi dès l'arrêt maladie. Et ça, c'est pas un message qui est très très courant, mais plus on anticipe, plus on sécurise le parcours et plus on accompagne aussi l'employeur dans le maintien de ses compétences et dans la préservation d'un environnement de travail qui soit sécurisant.
Alors, on a bien compris aussi que vous vous mettiez en avant, vous interpelliez sur les signes avant-coureurs, hein, que les managers doivent repérer pour une personne qui n'ose pas parler de ses problèmes. Est-ce qu'il y a des outils qui existent pour agir en amont?
Alors, je parlerai plutôt de clés. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup sur de la formation des référents handicap en entreprise. Les clés qui permettent d'identifier les signaux faibles, qui permettent aussi de dédramatiser le sujet. Quand on a un salarié en arrêt maladie, souvent en tant qu'employeur, et je le constate, on se dit ben surtout pas de contact pendant l'arrêt maladie avec l'employeur. Oui. Il y a des outils. Il y a des dispositifs, il y a des opérateurs qui permettent de reprendre contact avec le salarié en arrêt maladie pour identifier ce qu'il est possible de mettre en œuvre au moment où le retour sera d'actualité et pour sécuriser le retour et le parcours pour éviter que les employeurs ne se retrouvent pendant un an, deux ans, voire davantage avec un salarié qui est absent, que ce salarié se retrouve pendant la même période sans activité professionnelle avec peut-être des compétences qui se dégradent aussi et avec ensuite une forme d'anxiété au retour parce qu'il n'y a plus de lien, en fait.
Oui, c'est ça. C'est des solutions adaptées. Alors, je pense plutôt pour les TPE-PME, puisqu'elles sont souvent moins bien équipées que les grands groupes, hein, qui eux-mêmes ont d'autres outils, probablement.
Alors, ce sont les mêmes outils pour toutes les entreprises, hein, quelle que soit leur taille. Mais effectivement, ce que l'on constate, c'est que dans les grands groupes où il peut y avoir une direction des ressources humaines très organisée, voire une mission handicap avec des référents handicap en interne dont c'est l'unique mission, ces actions-là sont plus fluides. Dans les petites entreprises, petites PME, on se rend compte que le besoin d'accompagnement est plus prégnant et donc du coup on a un vrai enjeu en fait à accompagner ces entreprises et puis à communiquer sur des dispositifs de droit commun. Moi je suis moi-même employeur, pas plus tard qu'hier, moi j'ai un salarié qui est en arrêt depuis un mois, le réflexe c'est rendez-vous de liaison. Il n'est pas obligatoire, mais il peut être proposé par l'employeur. Ça permet un temps d'échange entre l'employeur et le salarié. Ça permet aussi de rassurer le salarié sur le fait que on n'était pas là, mais on t'oublie pas.
D'accord.
Et que on est mobilisé aussi pour anticiper le retour, pour préparer le retour, pour éviter la désinsertion professionnelle. Donc ce sont des dispositifs.
Ça c'est autorisé dans le,
exactement.
Dans le cadre. C'est intéressant parce que c'est autant de dispositifs dont on n'a pas connaissance. Hein.
Oui, tout à fait. Donc un véritable enjeu d'information.
Oui. Jeanne ?
Oui, c'est très important de le rappeler et c'est aussi pour ça qu'on compte sur RCH pour le dire aux entreprises et notamment à nos entreprises adhérentes parce qu'il y a une telle crainte aujourd'hui des chefs d'entreprise sur la question des arrêts maladie qu'effectivement le premier réflexe qu'a n'importe quel chef d'entreprise à partir du moment où il y a un arrêt maladie qui est posé, c'est je ne pose pas de questions parce que ça peut se retourner contre moi, je ne contacte pas le... Sauf qu'effectivement ça crée des situations de blocage qui sont parfois inutiles, donc il faut expliquer comment on peut faire, dialoguer et sortir un peu des clichés qu'on a maintenant sur ces sujets-là qui font que effectivement il y a beaucoup de recul qui est pris et par les DRH et par les chefs d'entreprise dès qu'on a cette problématique alors que parfois les solutions existent.
C'est ça. Et dans ce cas-là, par exemple, on a des chefs d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui, j'espère d'ailleurs, et qu'ils ont besoin de poser des questions telles que vous venez de le citer. À qui s'adresse-t-il dans ce cas-là?
Ils peuvent contacter RCH 95. Ouais. Ils peuvent contacter tous les Cap Emploi du territoire en fonction du lieu où ils exercent leur activité. Il y a un Cap Emploi par département et les Cap Emploi ont une mission d'information. Une mission d'information et des services dédiés au maintien dans l'emploi avec de réelles expertises qui viennent identifier, en tout cas aider les employeurs à identifier les problématiques et surtout à identifier les solutions et puis à les mettre en œuvre. C'est aussi surtout ça, c'est savoir qu'il y a des outils, savoir qu'il y a des opérateurs, c'est très bien. Ce qui est la réelle valeur ajoutée, c'est l'accompagnement, c'est l'expertise que l'on propose dans le cadre de l'accompagnement.
Elisabeth Asdrubal, Jeanne, je propose encore une nouvelle pause avec le duo Joyce, Jonathan et Vianney et leur reprise des filles d'aujourd'hui.
Restez avec nous, on revient dans quelques instants.
Elles sont énervantes, les filles d'aujourd'hui, et malheureusement j'en fais partie. Elles sont trop hésitantes, les filles d'aujourd'hui, elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas dire oui.
Les gens de mon temps s'enlacent, et de ce temps les gens se lassent. Soudainement tout s'efface au moment de la préface. On se rend débile d'amour un temps. On se défile pourtant. Avant d'écrire le jour suivant, mais volant de ville en ville. Elles sont déroutantes, les filles d'aujourd'hui. Un petit tour d'amour et puis s'enfuir. Si elles suivent le vent, les filles d'aujourd'hui, sais-tu que les garçons le font aussi? Les gens de mon temps s'embrassent avant qu'ils ne se remplacent. Tout se détend, se détache au moment de la préface. On se rend débile d'amour un temps. On se défile pourtant.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Merci d'être resté avec nous. C'est l'économie en direct sur IDFM Radio, notre spécial MEDEF du Val d'Oise, en compagnie de Jeanne Bory-Josselin, déléguée générale, Elisabeth Asdrubal, directrice générale de RCH, ressources, carrières et handicap dans le Val d'Oise, et Dominique Gillot, ancienne ministre, présidente de la Fondation OVE. Elisabeth Asdrubal, on a compris toute l'importance de votre structure hein, dans votre domaine et du handicap et en dehors du handicap finalement. Est-ce que vous auriez vous nous avez cité les dispositifs mis en place par votre structure. Est-ce que vous auriez un exemple d'innovation justement mis en place pour faciliter l'intégration, le maintien dans l'emploi?
Oui, je pense à un exemple récent d'une entreprise spécialisée dans la maintenance de poids lourds qui a été confrontée à un salarié en arrêt maladie qui revient avec des restrictions, ce qu'on appelle des restrictions d'aptitude, restrictions au port de charge, restrictions à la station debout. Et sur cette situation, les équipes chargées du maintien dans l'emploi donc font des pré-études de poste. poste, de l'environnement de travail, échange avec le salarié, échange avec le médecin du travail, échange avec l'employeur pour voir aussi ce qu'il est possible de faire. Et là, la solution qui a permis de maintenir le salarié sur son poste de travail, ça a été de fournir un exosquelette réduit du coup l'impact du port de charge, parce que très souvent on a des difficultés aussi à faire envisager à certains salariés qu'il faut changer de métier. Donc quand on peut éviter en fait d'avoir à reprendre un parcours de transition professionnelle, à repasser par de la formation si c'est pas le souhait du salarié et s'il est possible de le maintenir dans son poste, on travaille sur la compensation du handicap avec le matériel qui peut exister et qui peut être adapté à différentes typologies de handicap et à différents environnements de travail. Donc voilà un exemple d'innovation. Avec d'autres entreprises, on travaille beaucoup. Jeanne a cité tout à l'heure Asuo et Volkswagen, qui sont des adhérents du MEDEF. On travaille aussi beaucoup sur des actions de sensibilisation au handicap, sensibilisation des équipes notamment, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'importance de parler du sujet en entreprise, l'importance pour les employeurs de s'emparer du sujet et de le faire visiblement pour aussi pouvoir identifier des situations de salariés sur lesquelles on va pouvoir intervenir pour faciliter en fait le quotidien professionnel, pour favoriser la performance. Donc voilà quelques exemples.
Comme Madame Gillot, on vous sent passionnée et très investie par le sujet, donc c'est bien, moi j'adore. Alors, on a évoqué aussi l'étroite collaboration avec le MEDEF, bien sûr, Cap Emploi, et y a-t-il d'autres partenaires et comment ces synergies permettent-elles de créer un écosystème inclusif dans le Val d'Oise?
Alors oui, il y a d'autres partenaires. Madame la ministre parlait tout à l'heure de la loi pour le plein emploi qui identifie un certain nombre d'opérateurs qui sont intégrés désormais au réseau pour l'emploi. Donc on travaille, en tout cas pour ce qui est de Cap Emploi, en étroite collaboration avec France Travail sur le volet recrutement. On vient en complémentarité en fait de cette offre de services de droit commun avec notre expertise handicap, avec le petit plus qui est l'accompagnement et le suivi de la période d'intégration après un recrutement pour sécuriser le parcours. On travaille aussi de concert avec les missions locales sur l'accompagnement des jeunes en situation de handicap. C'est un sujet d'importance aussi pour les jeunes parce que l'acceptation du handicap est encore plus difficile pour ce type de public. Et puis tous les institutionnels et les groupements d'employeurs qui travaillent sur le sujet, qui s'emparent du sujet. On le fait dans le cadre d'un réseau qui est national. Alors moi je le fais sur le Val d'Oise, je suis directrice générale sur le Val d'Oise, mais des associations comme la mienne, il en existe dans tous les départements de France qui portent Cap Emploi, en plus parfois d'autres actions comme nous de formation, de sensibilisation, de diagnostic, et on est tous fédérés au sein d'un réseau qui s'appelle Kéops au niveau national, qui est notre représentant vis-à-vis des pouvoirs publics, avec des Kéops régionaux aussi qui permettent de coordonner les actions, de mutualiser parfois des moyens pour venir en construction d'événements, d'actions communes qui répondent à un besoin qui n'est pas forcément toujours uniquement local et départemental, qui peut être régional, voire au-delà.
Et donc ce groupement Kéops vous permet d'évaluer l'impact des actions sur le terrain?
Oui. On a chaque année un baromètre qui est accueilli au Sénat dans le cadre de Kéops National et qui permet de communiquer sur le bilan de l'année précédente, surtout sur nos actions de maintien dans l'emploi, puisque pour ce qui est de l'accompagnement au recrutement, l'offre de service, elle est coportée avec le reste du réseau pour l'emploi, avec France Travail en particulier. Et donc, Kéops se fait effectivement le relais d'initiatives innovantes. C'est également un support pour les Cap Emploi et pour les structures gestionnaires. On a notamment au sein de Kéops une commission innovation qui permet d'identifier des moyens de compensation du handicap innovant et de mutualiser en fait cette connaissance et cette information au niveau national pour que quand on recherche une solution, Mais on la trouve très facilement, parce que des collègues de Marseille ont été confrontés à une situation similaire, ont identifié une solution, un fournisseur, voilà. Et la commission innovation...
C'est votre chat GPT.
on peut dire ça, on peut dire ça, parce qu'il y a, des personnes, des hommes et des femmes engagés derrière, mais oui, effectivement, on peut dire ça. Et la commission innovation, depuis quelques années, elle récompense aussi des initiatives locales.
Ah oui,
on a eu, nous, RCH 95, le plaisir cette année de remporter le prix de la créativité dans le cadre des trophées de l'innovation, justement sur des outils de sensibilisation innovante qu'on a créé à destination des entreprises.
Bah écoutez, félicitations et bravo pour avoir été lauréat. Est-ce que ça veut dire aussi que ces indicateurs montrent une évolution positif des mentalités et des pratiques dans les entreprises accompagnées?
Oui, on mentirait si on disait le contraire. Effectivement, il y a une évolution positive des mentalités. C'est aussi le bilan des 20 ans de la loi de 2005. C'est que les choses s'améliorent. Le handicap, on travaille tous à ce que le handicap ne résume pas la situation d'une personne qui est avant tout un salarié, un travailleur avec des compétences, avec des aspirations, avec un parcours. Néanmoins, ce que l'on constate quand même, hein, on a beaucoup entendu, surtout sur le premier trimestre, les bilans de la loi du 11 février 2005. Il y a eu un rapport du Sénat, il y a un rapport du Défenseur des droits. C'est que le handicap reste quand même l'un des premiers facteurs
de
discrimination.
C'est ce qu'on disait un petit peu en début d'émission.
Exactement. Oui. Dans l'emploi, mais aussi dans la scolarisation, l'éducation, la formation. Il y a des progrès qui demeurent à faire. Le chemin parcouru, Madame la Ministre le disait tout à l'heure, en France, il faut qu'on...
On n'a pas à rougir, mais voilà, il ne faut pas baisser les bras. Surtout.
Exactement. Il ne faut pas baisser les bras. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se comparer avec certains de nos voisins. Nous, dans le cadre de Cap Emploi, on a aussi une référente mobilité européenne, parce que depuis quelques années, on fait partie du réseau européen du service de l'emploi. Et on se rend compte, quand on confronte nos visions avec nos collègues européens, quand on leur dit que chez nous, il y a une loi, il y a ils appellent ça des quotas, même si on les appelle différemment.
Oui, même si on n'aime pas bien le mot.
Voilà, qu'il y a des sanctions, puisque la contribution est perçue souvent comme des sanctions, ça les étonne, parce que dans d'autres pays, c'est pas le cas.
Il n'y a pas besoin.
Voilà.
C'est ça. Merci infiniment, Elisabeth Asdrubal, pour cet éclairage sur votre action au quotidien. Et puis, aussi votre collaboration avec le MEDEF du Val d'Oise.
Oh, c'est nous qui la remercions.
En tout cas, votre engagement montre que l'inclusion ne se limite pas à des obligations légales, mais qu'elle est avant tout une démarche humaine et stratégique et qu'elle se construit à plusieurs. Merci infiniment.
Merci à vous.
Jeanne, on arrive, c'est bientôt la fin de l'économie sur IDFM. Donc, peut-être un mot de conclusion.
Ouais, évidemment, un mot de conclusion pour rappeler l'événement du 20 novembre à midi à Lille-Adam, mais aussi surtout de dire, je crois que l'important, c'est pas forcément de donner des choses aux gens, mais de rendre possible. Et pour les personnes avec handicap, et pour tout le monde en général, il faut que tout soit possible. Cible au même titre que les personnes valides, surtout travailler, c'est hyper important au quotidien. Donc voilà, c'est l'objectif principal de tout ça et il faut le rappeler.
Merci infiniment. Elisabeth, un mot avant de nous quitter.
Ben merci à vous, j'ai eu plaisir à partager sur ce sujet avec vous ce matin. Nos initiatives, c'est une question de citoyenneté. De citoyenneté pour tous, y compris pour les personnes avec handicap, et une question d'égalité des chances.
Complètement, on est bien d'accord. Donc, Madame Gillot, un mot de conclusion avant de nous quitter?
Oui, je trouve que cette conversation et cet échange est très, très intéressant et porteur de progrès. Parce que ce qui est important, c'est que chacun comprenne que le recrutement d'une personne avec handicap, c'est pas simplement un poids, c'est aussi une chance d'ouverture et de de développement d'un esprit au sein du collectif de travail qui est porteur de progrès pour l'entreprise. Et je souhaiterais que on retrouve des entreprises qui ont fait cette expérience de garder ou de réaccueillir un salarié qui a acquis un handicap dans sa vie professionnelle ou personnelle, un accident de voiture, un accident de sport, un accident du travail, et qui le réaccueille en adaptant son poste de travail, en lui permettant de continuer d'apporter ses compétences et ses aptitudes à l'entreprise. Ça a plusieurs effets. D'abord, pour la personne handicapée, c'est oui, vraiment excellent.
Elles se sont pas rejetées,
et pour l'entreprise, c'est aussi très intéressant parce que ça montre que l'entreprise est capable de garder ses salariés, donc d'acquérir aussi sa gratitude, sa reconnaissance. Et pour le collectif de travail aussi, parce qu'ils se disent, bah voilà, ma boîte, elle est quand même bien parce qu'elle n'a pas laissé mon collègue, mon pote sur le bord de la route. Voilà.
Mmh. Oui, c'est un bel exemple d'adaptabilité finalement pour l'entreprise. Oui.
Voilà.
C'est sûr. Merci infiniment Dominique Gillot.
Merci à vous.
Merci. Merci infiniment et merci d'avoir été les invités en direct de l'économie en direct. On retiendra que l'inclusion est un défi collectif, mais aussi une chance, celle de construire une société plus juste et des entreprises plus performantes. Comme nous l'auront appelé nos invités, chaque pas compte, parce que le handicap n'est pas un obstacle, mais une richesse. C'est bien ce que nous a dit Dominique Gillot. Merci également à nos auditrices et auditeurs de nous avoir suivis, comme à chaque émission. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son podcast sur le site idfm98.fr. Mardi, je vous donne rendez-vous à 9h30 pour un nouveau numéro de l'économie en direct avec de nombreux invités. Bonne journée et bon week-end. Et surtout, restez sur notre fréquence et profitez de nos autres émissions. À bientôt.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I
dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man, and I see my future in your eyes. Well, baby, dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Planche
je communique solution. On s'aligne sous les lignes de flottaison. Sobre el color del mar. Sobre el color del mar. Sobre el color del mar. Estoy. Sobre el color del mar. Desapareciendo. Sobre el color del mar. Estoy. Desapareciendo.
De plus, je rentre chez moi, j'ai confié mon cœur à un garçon. Une fois de plus, je comprends pas, j'empile des je t'aime dans des cartons. Je suis toujours trop ou pas assez, j'en ai laissé des larmes sur l'oreiller. Les yeux ouverts, même dans le noir, personne à côté, sale mood ce soir. Je suis comme toutes les filles, tu sais j'ai plus le temps. J'ai passé ma vie pour quelqu'un qui m'oublie, pour quelqu'un qui me ment. Je suis comme toutes les filles, j'aimerais de temps en temps un débat le matin. Oh, je t'aime quand je me plains, pas qu'à travers l'écran. Je suis celle qui passe, qu'on remplace, celle qu'on largue derrière un clavier. Par message, sans courage, t'as pris mon cœur et puis tu t'es barré. Je suis pas la seule dans tes messages. Je suis pas la seule à qui tu dis oui. Vas-y dégage, je me choisis. Je suis pas là pour faire joli, juste pour être jolie. Je suis comme toutes les filles. Tu sais j'ai plus le temps. J'ai fait passer ma vie pour quelqu'un qui m'oublie, pour quelqu'un qui me ment. Je suis comme toutes les filles. De temps en temps, on t'est belle le matin. Oh, je t'aime quand je me plains, pas qu'à travers l'écran. Si parfois j'ai peur de me planter, voir la même histoire recommencer, plus fort que les sourires et les trahisons. Je suis là, plus forte que jamais. Je suis comme toutes les filles. Tu sais, j'ai plus le temps. Qui s'est passé ma vie pour quelqu'un qui m'oublie, pour quelqu'un qui me ment. Je suis comme toutes les filles. J'aimerais de temps en temps. Un petit bel le matin. Oh, je t'aime quand je me plains, pas qu'à travers l'écran. Je suis comme toutes les filles.
Que ce soit clair, oui, un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine ou qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne, un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine, qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne. chaîne, un peu comme un fou, je l'aime. Sois clair, oui, un peu comme un fou, je l'aime. Sois trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Elle ou telle a dit ceci, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine, qu'elle soit roumaine, même si notre amour chaîne, un peu comme un fou, je l'aime. Sois trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Elle ou telle a dit ceci, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine, qu'elle soit roumaine, même si notre amour chaîne, un peu comme un fou, je l'aime. Sois trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Elle ou telle a dit ceci, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine, qu'elle soit roumaine, même si notre amour chaîne.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
La ville d'Enghien-les-Bains mène une étude en santé sur l'arthrose du genou et recherche des volontaires pour y participer. Les personnes seront suivies par un rhumatologue et bénéficieront d'une cure thermale gratuite au terme d'Enghien. Cette étude est destinée à un public de 50 à 80 ans souffrant d'arthrose du genou. Pour y participer, il faut répondre à un questionnaire de présélection en ligne ou téléphoner pour savoir si vous répondez aux critères de participation. Lors de cette cure thermale, vous recevrez plusieurs soins quotidiens pendant 3 semaines consécutives. Les 4 soins quotidiens sont supervisés par un médecin thermal et comprennent bain bouillonnant, cataplasme, douche au jet et massage sous eau. Venez participer à la recherche médicale. La cure thermale est offerte et une indemnisation est prévue pour les frais de transport et les 3 visites dans le cadre de l'étude. Contactez-nous au 03 80 68 05 05 ou études-enghien-les-bains.fr.